Oui, c'est compulsif. Avant la prédication, il y a toujours des trucs qui passent par la tête. Et Luc, il s'est bien repéré ces choses-là. Il me regardait de temps en temps, il me faisait un clin d'œil. J'ai plein de choses à vous dire, mais vous y voyez. Peut-être on va éteindre, à la limite, ça fonctionnerait mieux. Ouais, c'est juste, hein. 1 Pierre 4,19. En fait, nous arrivons dans les derniers chapitres de la première épître de Pierre. Et le titre que j'ai choisi pour cette partie-là, qui m'incombe aujourd'hui, c'est « En finir avec le péché ». Et les trois points que je vais aborder avec vous ce matin, c'est « Vivre selon la volonté de Dieu ». Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est « Dispensateur des grâces de Dieu ». Et le troisième, « Se réjouir d'avoir part aux souffrances du Christ ». Je pense que je me suis un peu trop emballé dans le découpage du texte. J'aurais dû diviser ces trois points en trois prédications. C'était possible. Et donc, je me suis retrouvé avec presque un chapitre entier à développer avec vous ce matin. Donc, on va faire avec, c'est faisable. Hein. On va commencer par le premier point, vivre selon la volonté de Dieu. Et on va lire les versets 1 à 6 ensemble. 1 Pierre 4. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux dans ce débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Au cœur du premier verset, on a la clé de tout le chapitre, finalement. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Ça, c'est l'objectif. Pierre est en train de nous dire que ça, c'est l'objectif de la souffrance dans nos vies, en finir avec le péché. L'objectif de la souffrance dans notre vie, c'est ça. C'est la pensée maîtresse de tout le chapitre. Et cette exhortation de Pierre est capitale. Il la justifie d'abord par la souffrance du Christ, de notre Seigneur, sur la croix, lorsque nous réalisons à quel prix nous avons été rachetés. Il nous montre la souffrance de Christ et il nous dit « Voilà à quel prix vous avez été rachetés. À quel prix nous avons été délivrés. » Il nous pousse à réaliser, en fait, le prix qui a été payé. Souvenez-vous, chapitre 3, verset 18, « En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui, juste, pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. » Quelqu'un a dit un jour que le sommaire de toute la religion, c'est de ressembler à celui que tu adores. Je dois vous avouer que j'ai parfois le sentiment d'être quelqu'un qui acclame le Sauveur du monde. Je l'acclame, je le chante, je suis fier de lui appartenir. Mais après, je vis une vie étriquée, presque tranquille, conforme à tellement peu de choses près à la vie des honnêtes gens que je rencontre ici et là, parmi les incroyants. La croix qui me ramène à Dieu ne veut pas faire simplement de moi un honnête et un brave homme. Vous voyez, c'est ce que Pierre est quelque part en train de nous dire. La croix ne veut pas faire de nous simplement des honnêtes gens et des braves gens. La croix veut faire de nous un vivant pour Dieu. Quelqu'un qui vit pour lui, selon l'Esprit de Christ qui vit en nous. je n'appartiens pas à Christ comme je suis inscrit à la sécurité sociale ou je sais pas, ou dans un club sportif, mais en tant que représentant de Dieu, en tant que représentant actif, en tant que témoin vivant de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour moi. C'est dans ce sens que Pierre, finalement, pointe du doigt notre attitude face à la souffrance, qui souligne le fait qu'elle révèle, finalement, cette souffrance révèle notre appartenance à Christ. La manière dont nous accusons la souffrance, c'est-à-dire que nous supportons la souffrance, la manière dont nous vivons la souffrance, témoigne de notre appartenance à Christ. La souffrance causée par le péché en général, mais aussi notre propre péché. Pas que le péché en général, notre propre péché. Le péché des autres aussi. Cette souffrance engendrée par le péché en nous est celle qui nous atteint venant des autres. Et celle-là, elle devrait nous pousser à prendre en haine le péché, à lui faire la guerre. Malheureusement, au lieu de prendre en haine le péché, notre tendance, ma tendance, est de prendre en haine l'autre, celui par qui la souffrance arrive à moi. Celui qui me fait souffrir. Je me parle. Je sais qu'ici, dans cette salle, je parle à certaines personnes. Je le sais. La croix sur laquelle notre Sauveur a souffert est censée me ramener à Dieu. La croix sur laquelle nous sommes crucifiés et qui nous fait souffrir nous ramène aussi à Dieu. Paul le soulignait dans sa lettre aux Galates, au chapitre 2, il dit « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et je le dis souvent, le problème, c'est de maintenir un sacrifice vivant sur l'autel, surtout lorsque ce sacrifice, c'est moi. Lorsque c'est moi, le sacrifice, c'est difficile de le maintenir sur l'autel. Ma réactivité à l'injustice, ma réactivité face à l'hypocrisie, à la méchanceté, etc. Je suis réactif, pas dans le bon sens. Et je parle de moi. Hier matin, à la maison d'arrêt, on était un grand groupe, il y avait Tard, il y avait le pasteur Salafran, il y avait deux musiciens en plus, donc on était pas mal, et puis il y avait Thierry Confalque. Et à la fin, donc on était là en train de faire un petit peu voir un petit peu les plannings, etc. Et il y a un des détenus qui était avec nous parmi le club qui est rentré et qui m'a dit « Daniel, est-ce que je peux te parler? J'ai quelque chose à te dire. » Et je suis sorti avec lui, il m'a dit « Tu sais, Daniel, j'ai une question à te poser. Est-ce que la justice de Dieu, elle est plus forte que la justice des hommes ?» Et j'ai dit « Mais pourquoi tu me poses cette question ?» Il me dit « Parce que j'ai vécu l'abus sexuel, moi et mes deux petites sœurs. Et moi, la seule chose à laquelle je pense en sortant, c'est d'aller tuer ce mec-là. » Pas mal la question, hein ? Tu te retrouves face à un truc. Et moi, je lui ai dit, sincèrement, humainement parlant, ce que tu ressens est légitime. À ta place, j'aurais la même pensée que toi. À la limite, même, j'enverrais quelqu'un pour le tuer. Il m'a dit, j'y ai pensé. Je dis, mais je sais que tu as pensé. Parce que tu es dans cette situation, c'est obligé que tu y penses. Et quelque part, je me dis, ben, waouh. Finalement, je suis pas très loin de lui. Au bout du compte, je réagirai peut-être comme lui. Dans mon cœur, je suis pas mieux que lui, parce que j'ai la même pensée que lui. Et puis, pour pas faire « vas-y que je te prêche et que je te reprêche », il sortait du culte, hein, et je lui ai dit « écoute, tu as des enfants, tu as une femme, pour ma part, la seule chose qui me bloquerait, en tout cas qui ferait pencher la balance du côté de ne pas me venger, c'est de penser à mes enfants et à ma famille. » Il me dit, c'est vrai, tu as raison. Parce que j'ai dit, mais là, tu vas plus t'en sortir. Et eux non plus. Tu vas les plonger dans quelque chose qui va les anéantir. Il y avait rien de spirituel dans ma réponse. Mais je pense qu'elle était sensée. Je pense qu'ils n'attendaient pas de ma part une réponse mieux que ça. Après, je lui ai dit, écoute, Jésus, il a dit que si quelqu'un touchait un de ses petits, il vaudrait mieux qu'on lui attache une meule de moulin autour du cou et qu'on le jette au fond de la mer. Et il m'a dit, ah oui, il a dit ça. J'ai dit, ben oui. J'ai dit, alors la justice de Dieu, je te prie de me croire. C'est pas la rigolade. Il faut en finir avec le péché. C'est la pensée de Christ pour toi. C'est la pensée de Christ pour moi. Son désir est de nous attacher toujours plus à lui. Verset 2. Afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair. Parce que nous en sommes là. Et j'ajouterai, sachant que le diable ne prend pas de vacances. Sachant qu'il attend de notre part le moindre signe de fatigue, de faiblesse ou de relâchement pour contre-attaquer. Aussi longtemps que nous vivons dans la chair, nous aurons à combattre sur ce terrain. C'est usant, c'est épuisant, c'est décourageant, parfois déchirant de découvrir finalement que la victoire remportée aujourd'hui sur telle passion ou convoitise ou désir de vengeance ou quoi que ce soit devra à nouveau être remportée demain, devra à nouveau être remportée après-demain, et après-demain, etc. Pendant 10, 20, 30, 40 ans. Et là, la parole de Jésus prend tout son sens finalement parce qu'il nous dit dans Matthieu 5, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Et la question au travers de ça, de ces paroles-là, c'est « À qui est-ce que je veux ressembler ?» À qui, finalement, souhaites-tu ressembler ? À Monsieur Tout-le-Monde ou à Jésus-Christ ? Vous savez ce que je vous disais au début, finalement ? Être un brave homme, une brave femme. Et c'est vrai que la meilleure arme d'un soldat, c'est son état d'esprit. Change mon état d'esprit, Seigneur. Accorde-moi un meilleur état d'esprit. Et j'ai remarqué que dans ma propre vie, tant que je n'ai pas fait le choix, tant que le choix n'a pas été fait, tant que je suis resté dans des demi-mesures, j'ai échoué. J'ai lamentablement échoué. Quelle sorte d'évangile est-ce que nous vivons ? Une moitié, un quart, un tiers, je ne sais pas. Et je crois que c'est d'abord dans la pensée que la victoire se remporte. Et mes réactions, qui peuvent être violentes, dures, agressives, ça c'est parce que je n'ai pas travaillé ma pensée. Parce que si je commence à réfléchir, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là, à la maison d'arrêt, parce qu'ils ont agi sans réfléchir, hein, tout simplement, parce que leur état d'esprit était que... Ça a été une action sans réflexion. Et Pierre nous rappelle qu'il faut nous décider. Pierre nous rappelle cette réalité au verset 3, il nous dit « C'est déjà bien suffisant, dit-il, en effet, d'avoir par le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, etc. » On a décidé, j'ai décidé, tu as décidé, nous avons décidé, on a choisi, on a fait un choix. On l'a pas chanté ce matin, mais il y a ce cantique qui dit « En mon cœur, j'ai choisi. » Tu vois ? En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Et le cantique dit oui pour toujours. Oui pour toujours. Et il continue en disant, si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non, j'accepte la croix. Joyeux, je prends ma croix, oui, pour toujours. Et ceux qui nous entourent trouvent ça tellement bizarre. On nous prend pour des fous. versets 4 à 6, il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement et ils vous calomnient. Ils en rendront compte. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Et puis il continue avec cette phrase un peu étonnante, que les morts ont aussi été évangélisés. On peut juste s'arrêter une minute, on pourrait faire toute une explication là-dessus. Qui sont ces morts auxquels l'évangile a été prêché? D'abord, il ne s'agit certainement pas de gens qui étaient morts lorsqu'on leur a prêché, mais qui étaient morts au moment où l'épître a été écrite. Ils ont entendu l'évangile, ils ont cru, par la suite ils sont morts. Point. Deuxième point, dispensateur des grâces de Dieu, versets 7 à 11. On va le lire. 4, 7 à 11. La fin de toute chose est proche, soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. De quelle fin s'agit-il? Parce que le verset 7, la fin de toute chose est proche. De quelle fin s'agit-il? Que signifie toute chose? La fin de toute chose, c'est quoi? Bien, moi je crois que tout petit à petit devient perverti. Il n'y a rien qui ne reste propre, ni en l'homme, ni dans le monde. Dernièrement, on a étudié le livre de Daniel avec le groupe à Saint-Vallier. Et dans Daniel, il est dit que le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Waouh ! Aujourd'hui, je crois que notre monde vit de la grâce et de la patience de Dieu. Sandra, tout à l'heure, elle a prié dans ce sens. Notre monde. C'est vrai que ça fait peur, ce qui se passe. Aujourd'hui, nous-mêmes et tous ceux qui nous entourent vivons de la grâce et de la patience du Seigneur. Seule la miséricorde de Dieu nous permet de continuer à subsister ici-bas. Seule la miséricorde permet à François Hollande, à Barack Obama, à Vladimir Poutine, d'être encore des présidents. L'ONU, le FMI, même Daesh subsiste par la seule et unique patience de Dieu. Sa seule miséricorde permet au boulanger du coin de faire son pain tous les jours. La seule miséricorde de Dieu permet à Messaoud d'ouvrir tous les jours son magasin. La seule patience de Dieu permet à nos voisins d'aller faire leurs courses deux fois par semaine à Auchan ou à Leclerc. La seule miséricorde de Dieu nous permet de prévoir des vacances ou quoi que ce soit, de nous lever le matin. Le jour où la royauté de Christ sera manifestée, ce sera la fin de tout. C'est de cette fin-là que Pierre est en train de parler. Ça sera la fin de tout, parce que tout, absolument tout, que ce soit dans le ciel ou sur la terre, sera entraîné dans un renouvellement complet des choses. Tout va être renouvelé. La résurrection de Jésus, que nous avons fêté il n'y a pas longtemps, c'est le signe visible de cette fin et de ce renouvellement. C'est le premier signe du renouvellement de toute chose. À commencer par la mort qui ne sera plus. La résurrection du Christ est aussi le signe de la fin du péché, en finir avec le péché. Alors en quoi cette fin est proche? Proche dans le sens du couronnement d'une entreprise d'évangélisation? Je crois pas. Je crois pas du tout. La fin sera la fin parce que Dieu l'aura décidé. Simplement, nous devons nous tenir prêts. C'est ce qu'a dit Jésus. Tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra, alors vous n'y penserez pas. Des signes ? Ben oui. Des signes, il y en a. Il y en a. Un amour qui va en se refroidissant, même dans l'Église, d'où l'exhortation de Pierre, qui est à prendre au sérieux. Une piété qui garde la forme, mais qui finalement perd le fond, perd la vie, perd la substance, son essence. Un égoïsme qui se généralise, l'insensibilité. Une inversion des valeurs, ce qui était bien est appelé mal, ce qui est mal est appelé bien. On connaît tous ces passages-là, finalement, on les a entendus et re-entendus. Et c'est tout le sens pratique des versets 8 et 9, où Pierre nous dit « avant tout », c'est-à-dire la branche à laquelle il nous faut nous tenir, « avant tout ». Il n'est pas question de théologie. Avant tout, il nous dit « ayez les uns pour les autres un amour constant ». Car l'amour couvre une multitude de péchés. Et puis il continue en disant « exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer ». Je trouve ça fabuleux. Parce qu'en fait, Pierre est en train de nous dire « l'amour couvre ». L'amour est le parapluie que tu vas ouvrir au-dessus de la tête de ton frère et de ta sœur. Et lui va faire pareil avec toi. Tu vois ? En fait, l'amour, c'est ce parapluie que nous allons ouvrir au-dessus de la tête de nos frères et sœurs dans leur échec, dans leur inconstance, dans leur chute, lorsqu'ils trébuchent. Ce parapluie que nous allons ouvrir, nous dit Pierre, sur la tête de nos frères et sœurs, va nous permettre de lutter à contre-courant de notre société. Ça va nous permettre de ne pas nous laisser emporter par le courant ambiant, si tu préfères. Ce que disait Luc ce matin, c'est tout à fait juste. Quand il a dit « je vous trouve beau et belle », bon, il y en a qui diraient « chacun ses goûts », hein, mais quelque part, c'est vrai, c'est un miracle. C'est un miracle. Pierre nous parle de la vie en communauté, là. En fait, il est en train de nous dire de mettre nos dons au service des autres, de ne pas parler pour rien dire, de s'exprimer selon les oracles de Dieu. Il nous dit que de nous encourager les uns les autres à regarder au Seigneur, à s'émerveiller devant lui, à servir avec la force que le Seigneur nous donne en donnant gloire à Dieu. Et le verset 11 se termine par « Amen ». C'est comme une prière qu'il est en train de faire. C'est une prière. Et finalement, il nous dit « À nous, chrétiens, vous savez, vous êtes riches. Nous sommes riches, très riches. Nous avons reçu des dons particuliers, naturels, surnaturels, des talents, des possibilités, des savoirs, etc. Tous ensemble, dans le cadre communautaire, nous sommes en possession des diverses grâces de Dieu. » Et Pierre nous encourage à ne pas garder ces grâces pour nous-mêmes. Pierre nous encourage à refuser de tomber dans le piège de cette société finalement qui nous accapare, qui nous freine, qui nous stoppe, qui nous arrête dans notre élan au service de notre communauté, de la communauté. Parce que finalement, notre service nourrit notre foi. Autant que la lecture de la Bible, autant que le culte du dimanche matin, autant que la prière, la grâce que nous déployons envers les frères et sœurs, cette grâce que nous déployons envers nos frères et sœurs, ça nous permet de vivre dans ce monde. C'est le signe aussi de notre appartenance à Christ. Et bien sûr, on arrive au troisième et dernier point. Nous nous réjouissons d'avoir part aux souffrances du Christ. On lit le texte, 12 à 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. J'aurais presque la réponse que j'aurais pu donner dans un verset biblique à ce gars hier matin. En fait, la dernière partie du texte parle de deux sortes de souffrances. Il y a une souffrance qui est celle des injustes, c'est-à-dire que celle qui est engendrée par les hommes eux-mêmes. On récolte, c'est la récolte de ce qui a été semé, en fait. Et nous récoltons aussi ce qu'ont semé les autres. Nous sommes dans ce monde. Nous récoltons aussi ce que les autres ont semé. Dieu est saint, il ne tiendra pas pour innocent celui qui est coupable. Il y a des souffrances qui non seulement sont le fruit de la méchanceté, mais simplement le fruit du péché, de ce que vivent ceux qui nous entourent. Il y a un jour où les gens vont réaliser finalement que les souffrances par lesquelles ils passaient étaient en fait un appel de Dieu. Parce que ces souffrances-là, même si elles ne sont pas... Parce que, il faut dire, les gens qui nous entourent, non-croyants, ils ont soif de justice. Ils trouvent la vie injuste. Parfois, ce qui leur arrive, ils disent « Mais c'est pas normal qu'il m'arrive ça. Je n'ai pas demandé ça. Je n'ai pas demandé ce qui m'arrive. » Et ils souffrent de ça. Et ils n'ont pas compris que c'est un moyen que Dieu permet pour qu'ils se tournent vers Dieu. Et pas qu'ils crient injustice. Qu'ils crient injustice, oui, mais le fait de crier injustice, c'est de chercher la justice qui vient de Dieu. En fait, il y a une seconde souffrance, et celle-là, c'est celle des justes. Et Pierre fait une petite précision, il dit « Elle n'a rien d'extraordinaire ». Verset 12. En fait, il est en train de dire que cette souffrance est inscrite au programme de notre vie, et ça fait trois fois que Pierre nous le rappelle au travers de cette épître. Pierre prépare ses contemporains chrétiens aux persécutions qui vont marquer l'histoire pendant deux siècles. Et aujourd'hui, bien des siècles plus tard, cette lettre, elle est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Les Juifs étaient habitués à souffrir à cause de leur foi. Déportation, etc., Ancien Testament, c'est... Ils étaient habitués, mais pas les Grecs. Pierre fait encore une petite précision. Il dit « Cette souffrance doit nous réjouir, c'est étrange, hein ?» Mais Jésus nous avait aussi prévenu. Heureux. Heureux, disait-il. Heureux êtes-vous quand on vous insulte et persécute, quand on dit des mensonges et du mal de vous. À cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ainsi en a-t-il été des prophètes persécutés avant vous. Le chemin que nous avons pris est refusé. Il est méprisé par beaucoup. Et l'Église, représente les stigmates de Christ. L'Église, dans son ensemble, représente les stigmates de Christ. C'est intéressant de voir les choses comme ça, parce qu'on regarde la persécution, c'est quelque chose d'atroce, on en a peur, parce qu'il se peut même qu'elle arrive ici, il y a de fortes chances aussi. Vous avez vu ce qui est arrivé cette semaine. C'était presque un attentat dans une église. Donc les chrétiens sont visés, et ils vont être visés. Mais l'Église, dans son ensemble, représente les stigmates de Christ. L'Église s'adresse à la société de Thomas. Vous comprenez la comparaison? L'Église s'adresse à la société de Thomas. La souffrance des justes est le signe de notre gloire à venir. L'orgueil, l'esprit de compétition, les paillettes, les gloires qui suscitent l'envie, la jalousie, la gloire de Christ est sur un chemin totalement contraire. Vous savez, à la limite, des fois, moi, je suis gêné. Aujourd'hui, il y a quelques années, j'étais plus dans la recherche de, de trouver des moyens pour entrer en contact avec les gens, d'être plus plus actuel, plus moderne, etc. Et plus ça va, et plus je m'aperçois que finalement, ça ne change rien. Dans Luc, au chapitre 22, verset 28, Jésus dit à ses disciples, « Mais vous, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. » Il parlait à ses disciples. Hein. Mais Pierre pourrait très bien dire la même chose avec son épître, dire, « Mais vous, les chrétiens, vous êtes ceux qui ont persévéré avec Jésus dans ses épreuves. Vous, l'Église qui est persécutée aujourd'hui, qui souffre aujourd'hui, vous représentez les souffrances de Christ au monde. Vous parlez à cette communauté de gens qui ne croient pas, qui sont comme saint Thomas. Et les gens font comme ça. Ils se cachent les yeux, ils ne veulent pas voir la réalité. Ils ne veulent pas voir la réalité. Les chrétiens persécutés, ils ne veulent pas voir la réalité. On en parle, mais c'est dur, hein. Pour faire sortir ça, c'est dur, hein. Il faut qu'il y ait un homme politique qui, d'ailleurs, je vous demande de prier pour le maire de Grasse, hein, parce qu'il est vraiment touché par la persécution des chrétiens. Vraiment. Et il veut être actif là-dedans. Et c'est après avoir entendu une discussion vive entre les disciples que Jésus a prononcé cette phrase. Vous êtes ceux qui ont persévéré. Jésus connaît les difficultés par lesquelles ses disciples passent. Il connaît leurs faiblesses, il connaît leurs fautes. Vous avez persévéré, dit Jésus, c'est-à-dire vous n'avez pas fui. Vous n'avez pas fui. Jésus sait que l'épreuve, finalement, nous incite à faire machine arrière. Dans nos vies, l'épreuve, dans ma vie, m'incite à m'arrêter, à me décourager, à faire machine arrière, à arrêter, à dire, mais à quoi bon? Et Jésus, au contraire, il vient, il t'encourage, il te dit à rester ferme et patient dans ta foi. Mes épreuves, dit Jésus. Finalement, les épreuves que nous vivons dans notre vie, qu'elles soient injustes ou celles des injustes ou celles des justes, c'est les épreuves du Seigneur. Haine, mépris, rejet, hostilité, violence, persécution, moquerie, indifférence, malhonnêteté. Et c'est tellement plus facile, et là je me parle, hein, de laisser aller le côté obscur de ma personnalité. Tellement plus facile de répliquer. Et je vous assure, je le confesse devant vous, je me gêne pas parfois. Il y en a quelques-uns, j'ai envie de leur tordre le cou. Hein. Et Jésus nous encourage à rester ferme et patient. C'est tellement plus simple de faire des compromis avec mes paroles, mes comportements, mon honnêteté, tout en sachant qu'il me faut en finir avec le péché. On a un bon exemple en Moïse. Hein. Moïse refusa d'être appelé fils et la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre de Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est ça mon problème. J'ai du mal à regarder plus loin. Je vis dans une société de l'immédiat, donc j'ai perdu l'habitude. Finalement, j'ai perdu l'habitude de relever la tête et de regarder au-delà. Et la souffrance du juste nous pousse à la louange. Elle est la preuve de notre appartenance à Christ, à la maison de Dieu. Elle est le signe de la perdition de ceux qui n'ont pas Christ. Versets 18 et 19. « Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur ? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant le bien. En faisant le bien. Pierre termine ce chapitre en rappelant à ses lecteurs finalement que nous dépendons du Créateur, que le salut est un acte qui vient de lui, pas de nous. Ce n'est pas le produit de nos efforts ou la récompense de nos œuvres. Ça vient de lui. Pierre nous invite à une foi active, mais une foi sans crainte. Active mais sans crainte. Je vais prier. Seigneur, merci pour la Bible et merci encore pour ces lettres que nous étudions. Merci de nous rappeler finalement que la souffrance, Seigneur, qui nous atteint, t'a atteint aussi. Et cette souffrance qui nous atteint, c'est aussi le signe que nous t'appartenons. Seigneur, je suis bien conscient que tout le monde souffre sur terre, autant ceux qui t'appartiennent que ceux qui ne t'appartiennent pas. Mais Seigneur, simplement, ce matin, je voudrais te dire merci avec mes frères et sœurs, parce que la souffrance qui nous atteint à nous, qui t'appartenons, c'est une souffrance qui a du sens. Alors que la souffrance du monde n'a pas de sens. Seigneur, merci pour la croix. Je te prie pour chacun de nous afin que tu nous aides à ne pas baisser les bras, à ne pas nous décourager devant les épreuves de la vie, devant l'adversité, devant la persécution aussi. Je ne sais pas comment je réagirai moi-même face à certaines choses, à certains événements qui viendraient s'écraser dans ma vie. Mais Seigneur, je te prie vraiment pour que tu me et que tu nous donnes la force de lever nos regards vers toi et vers l'avenir. Aide-nous à être comme Moïse, à regarder vers l'avenir. Seigneur, merci pour ton Église. Donne-nous d'exercer l'amour les uns avec les autres. Merci pour les dons que tu as donnés. Merci pour ta communauté ici à Grasse.